Dialogue entre Congolais à présent avec Jean-Claude Toumba Kamanga.
Merci, Tina Salama. Bonsoir. Deux sujets au menu de cette émission. Suivi des accords de paix de Goma, rencontre hier mercredi à Kinshasa entre le président Joseph Kabila et le CNDP, ainsi que d'autres groupes armés des deux Kivus. Qu'est-ce qui a découlé de cette rencontre et quel impact sur la consolidation de la paix à l'est du pays? Toujours hier à Kinshasa, le premier symposium de la société civile. Que retenir de ce symposium? La société civile congolaise joue-t-elle son rôle? Voilà nos deux thèmes. Nous recevons comme invité l'abbé Bahala Jean Bosco, le rapporteur général du Comité national de suivi des accords de paix, Didier Bitaki, porte-parole des groupes armés du Nord Kivu, Jean Mouniampenda, responsable du département politique du CNDP. Je signale que Didier Bitaki et Jean Mouniampenda interviendront uniquement dans le premier thème puisque nous serons rejoints par Chantal Kalimbo et Pamphile Mwangi. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Suivi des accords de paix de Goma, rencontre hier mercredi à Kinshasa entre le président Joseph Kabila et le CNDP ainsi que d'autres groupes armés des deux Kivus. Qu'est-ce qui a découlé de cette rencontre et quel impact sur la consolidation de la paix à l'est du pays? Nous ouvrons ce débat par vous, Jean Mouniampenda, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne parfaitement, je vous écoute, merci monsieur le journaliste.
Ouais, bonsoir Jean Mouniampenda, nous apprenons, là je viens de l'apprendre à l'instant avec monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala, que vous avez clôturé la session de Kinshasa et d'ailleurs vous intervenez de Goma, il semble.
Non, je n'interviens pas de Goma, je suis dans la capitale de la République, et donc là je suis à Kinshasa, la première session de nos négociations, de la réunion du comité national de suivi, comité paritaire gouvernement CNDP, s'est achevée hier, je crois que c'était la fin des travaux de la première session, la seconde, c'est dans deux semaines à Goma, oui.
Alors, ça s'est bien passé?
En tout cas, absolument bien passé. Il y a des signes annonciateurs de la bonne fin de tout le processus. Je pense que ça s'est très, très, très bien passé.
Ça veut dire quoi, ça s'est très bien passé?
Bon, disons que il y a deux choses. La première, c'est que les éléments qui étaient prévus pour cette période ont été mis en œuvre. Notamment, bientôt, il y a le processus d'obtention de l'arrêté d'agrément de notre parti, le CNDP, et le processus de libération de prisonniers. Nous n'entendons que l'arrêté d'application de la loi domestique qui a été adoptée par les deux chambres.
Bon, peut-être avant de passer la parole à Didier Bitaki, où en êtes-vous justement avec l'agrément du CNDP comme parti politique?
Vous posez la question à Bitaki ou à
moi? À vous, mon intendant. Le CNDP, c'est votre mouvement.
Oui, alors, vous avez pas au moins mal semblé parler de Bitaki.
J'ai dit avant de lui passer la parole, c'est vous qui l'avez encore. Hein?
Oui, le processus est en voie d'achèvement. Je pense que nous reste à présenter deux ou trois documents bon, au niveau des éléments individuels de personnes. Et je pense que la bonne volonté, c'est que nous avons presque littéralement l'arrêté. Et donc, nous allons le produire dès que le dernier document sera produit au niveau du ministère de l'Intérieur d'ici deux ou trois jours.
Voilà. Didier Bitaki, vous êtes porte-parole des groupes armés du Nord Kivu. Satisfait aussi, comme Jean Mouniampenda, après la première session des rencontres Kinshasa avec le gouvernement. Bonsoir.
Bon, écoutez, merci le journaliste. Écoutez, pour que je puisse donner une impression que je suis, nous sommes satisfaits, il faudra d'abord que tous les groupes puissent procéder à l'évaluation de la première session qui s'est clôturée, qui ne s'est pas d'ailleurs pour nous, du nom qui vous, ne s'est pas encore clôturée, parce qu'on n'a pas précisé, donc on n'a pas procédé à sa clôture officielle. Et en deuxième lieu, je crois, le point qui était inscrit à l'ordre du jour, parce que les gens ont parlé des calendriers de mise en œuvre conforme, ne nous a jamais été communiqué. On a vu une bosse des calendriers de mise en œuvre qui n'a pas été discutée, et jusque là donc, je ne peux rien préciser à moins que peut-être ça me vienne du ciel. Sinon, nous pouvons seulement alors apprécier la réception que nous avons eue avec le chef de l'État qui était serein.
C'était hier.
Qui nous a rassuré que les groupes armés, les autres groupes armés devraient donc bénéficier d'un appui du gouvernement dans leur transmission, transformation en parti politique. C'est juste un peu positif. Mais sur le terrain, il y a ceux qui disent que bon, ils sont satisfaits, ils veulent se transformer en parti politique. Tout en faisant le contraire sur le terrain. Donc c'est la logique que Total Fight qui continue. Mais pour nous, on s'est dit, bon, il faudra que nous puissions d'abord nous mettre tous ensemble autour d'une table pour procéder à l'évaluation avant la clôture de la session, parce qu'elle n'a pas eu lieu pour nous. Nous sommes rentrés, actuellement je parle de Tidoma, il n'y a pas encore de clôture. Parce qu'il faudra une cérémonie comme nous l'avions fait et que nous puissions annoncer que voilà le compte rendu de ce que nous avons réalisé. Mais il n'y a eu que des rencontres, bon, il n'y a rien. Nous ne pouvons nous féliciter, en tout cas, de rien jusque-là. Nous attendons.
Voilà, c'est la région Bosco Bahala. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire? Parce que Mouyan Penda dit qu'il est satisfait. Oui, Didier Bitaki, lui, dit que ce n'est pas encore clôturé la session, que vous m'avez dit que la session de Kinshasa était déjà clôturée.
Oui, je ne sais pas de quoi parle Didier Bitaki. Bon, je vais d'abord dire quelque chose de positif, c'est que nous avons effectivement fait les travaux qui devaient durer seulement 3 jours, nous avons fait finalement 3 semaines. Cela signifie qu'on a mis du sérieux dans ce qu'on était en train de faire et on n'a pas voulu faire un travail éclectique. Il a fallu vraiment prendre tout au sérieux et c'est ce qui a été fait. Et je ne peux pas faire de l'énumération sur les points qui ont été discutés, mais je vais d'abord vous parler de quelques avancées notables dans les
discussions. De façon concrète, c'est quoi?
La loi d'amnistie a été donnée, ce qui permet à nos frères qui avaient participé à des mouvements insurrectionnels ou qui avaient pris les armes, ce qui est contre la loi, de pouvoir participer à la vie politique et à la vie civile.
À part la loi sur l'amnistie.
À part la loi sur l'amnistie, il y a la libération des prisonniers. Il y a déjà eu quelques libérations, mais il y a un processus qui est en cours parce que le ministre de la Justice veut faire les choses de façon sérieuse. Vous savez, nous avons des organisations de défense des droits de l'homme qui nous disent, écoutez, attention, attention. Et cette sonnette d'alarme, elle est importante. Ne faites pas de l'amalgame. Vous vous rappelez la discussion de la fois dernière, quand on disait que à Beni, on avait libéré des gens qui n'auraient pas dû. Ceci met un peu la puce à l'oreille aux gens qui s'occupent de la question de justice pour que les victimes des exactions et d'autres ne puissent pas venir dire un jour, voilà, vous avez laissé mon fonctionnaire sortir sans examen. Oui, il y a eu la réunion tripartite du Haut Commissariat pour les réfugiés, du gouvernement de la République et de la partie rwandaise, par exemple, pour le retour des réfugiés. Cette première réunion qui s'était tenue à la date prévue à Goma va être suivie d'autres réunions maintenant. Je crois que lors de la deuxième session, nous allons les rencontrer pour que concrètement, on voit comment faire les autres réunions, parce qu'il y a d'autres réunions qui se feront pour la Tanzanie, pour le Burundi. Je parle aussi de la question de la prise en charge des blessés de guerre, des veuves, des orphelins, etc.
Donc ça fait un certain nombre d'éléments quand même qu'on peut dire à l'appui
de ces réunions. Oui. Juste pour rassurer Didier Bitaki à propos de la cérémonie de clôture avec leur groupe à eux, ce n'était qu'une question de calendrier. Il se fait que on a fait la cérémonie de clôture avec les deux groupes qui étaient présents. Mais leur groupe était absent en ce moment-là.
Le
CNDP et les groupes armés du Sud Kivu. Nous avons dit, ceux du Nord Kivu, de toute façon, on va les rencontrer bientôt.
Voilà.
Comme ils n'ont pas remis leur rapport, nous allons les rencontrer à Goma bientôt. Et nous allons donc, de façon formelle, les faire. Donc, qu'ils ne disent pas que nous avons quand même fini les discussions qui étaient à l'ordre du jour.
Voilà, très rapidement, parce qu'on doit. C'est juste le premier sujet de cette émission. Alors, le chef de l'État, Joseph Kabila, d'après nos informations, il a promis de s'impliquer personnellement dans l'application des résolutions prises lors des travaux de Kinshasa, mais en même temps, il a insisté pour que les uns et les autres respectent leurs engagements.
Oui, cette parole.
Vous confirmez cette information?
Je confirme. Cette parole a été réjouissante pour tout le monde. Pour tout le monde, d'abord, le fait que le chef de l'État est celui qui a initié justement ce processus que nous sommes en train de suivre, que nous participons, il a accepté vraiment, d'abord, d'envoyer des gens négocier avec le CNDP d'abord à Nairobi. Vous vous rappelez, donc oui. Cela, il s'est impliqué déjà personnellement dans cela.
Oui, excusez-moi, Jean Bosco Bala, puisque nous vous gardons jusqu'à la fin de l'émission, qu'on permette juste à nos deux autres invités du Délitac et Jean Mouniapenda qui vont nous quitter. On va les remercier parce qu'ils ne seront pas avec nous dans le deuxième thème. Alors, Jean Mouniapenda, puisque vous êtes responsable du département politique du CNDP, lorsque le président Kabila vous demande à vous de respecter vos engagements, est-ce qu'on ne pense pas justement à ces barrières que vous n'avez pas encore enlevées au niveau du Nord qui vous... Quand je dis vous, ça dit vos éléments.
Merci, monsieur le journaliste. Mais ce qui est évident, d'abord, je voudrais dire que quand nous avons été reçus par le chef de l'État, une chose est certaine, le chef de l'État a dit, a affirmé avec force que le processus de paix est irréversible et qu'aujourd'hui, il fallait la consolidation de la paix, que tout le monde s'y implique. Et je pense que, de ce point de vue-là, nous sommes en train de faire tout pour que la consolidation de la paix se fasse. Les barrières doivent définitivement être, disons, enlevées dans la mesure où les négociations qui sont en cours ont été absolument, disons, portées de résultats, de très bons résultats positifs. Le principe et les faits bientôt vont être s'accorder et je pense que le président du CNDP et les autres membres de la délégation sont en train de faire rapport à Goma. Certainement, vous allez voir le principe qui a été affirmé, qui dit que les barrières doivent être supprimées dans les faits, dans les jours qui viennent. Je crois que vous le verrez de votre propre vue pour la concrétisation. Donc, cela, ce n'est qu'un élément de la consolidation de la paix. Et de toute façon, le processus est irréversible. Je pense que le recadrage du plan de mise en œuvre, dont les éléments viennent d'être cités par la Débarala, et la programmation, le chronogramme est donc établi et à Goma, on va faire la première évaluation. Donc le chronogramme, la chose est déjà en marche. La paix est donc irréversible. Je crois que ce qui est très important, c'est les échanges de sens que nous avons eu avec le chef de l'État, et ça c'est très important parce que de deux parties, nous avons compris que la paix est une nécessité et que les fauteurs de troubles qui se nourrissent de nos conflits doivent absolument comprendre que la page est tournée s'ils veulent vivre, ils n'ont qu'à vivre de la paix et non pas de compter nos conflits. Pour nos conflits, nous avons trouvé des gens qui sont à la paix.
Oui, Jean-Mouniapenda, peut-être pour terminer avec vous, mais avant de terminer, c'est à quand justement à la levée de ces barrières?
Je pense que nous avons une première, une deuxième, seconde session à Goma. Et les gens, les qui viendront le voir, mais je pense que il n'y a même pas de date à donner parce que le principe est d'enlever immédiatement. Ouais. Donc nous attendons seulement le fait.
Voilà, donc nous attendons aussi les faits pour vérifier, Jean Mouniapenda. Juste une petite question à vous, Didier Bitaki, aussi, avant de nous séparer. Le président Kabila, en fait, vous a donné l'occasion à vous de présenter vos préoccupations, je suppose.
Oui, mais écoutez, les préoccupations n'ont pas été seulement déposées ou alors exprimées auprès du chef de l'État hier. À travers ses envoyés, à travers ses représentants, ou alors les représentants du gouvernement, à plusieurs reprises, nous avons présenté différentes revendications. Mais alors, je vais d'abord corriger une chose. Il ne faudra pas que M. Labbé, qui est intervenu, confonde les réalisations qu'ils ont déjà faites avec le CNDP, se confondre à celles qui devraient être faites avec les autres groupes armés. Parce que jusque-là, il confond peut-être le calendrier qui doit nous amener, il confond peut-être la conclusion ou la clôture. Parce que jusqu'à ce niveau, il ne dira pas, je peux mentir, que nous avons tenu des discussions à plus de deux jours. Nous avons discuté seulement deux fois depuis les 21 jours que nous étions acquis sur ça.
En un mot,
je voudrais dire ceci.
nous sommes déterminés à faire la paix.
Merci.
Nous avons obtenu des consignes et des signaux forts de la part du président de la République et nous allons suivre cela. Mais il faudra qu'il y ait quand même de la clarté pour rassurer tout le monde de la part des négociateurs du gouvernement qui, chaque fois, sont en face de nous.
Voilà
un peu ce que je voudrais dire.
Voilà, donc il faut de la clarté de la part des délégués du gouvernement. C'est le message de Didier Bitaki. Nous en profitons pour vous dire merci à vous, Didier Bitaki, porte-parole des groupes armés du Nord Kivu et Jean-Mouyan Penda, responsable du département politique du CNDP. Merci, hein, à la prochaine.
Oh, merci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup.
Voilà, nous restons avec monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala. Mais très rapidement, avant de passer au second thème, monsieur l'abbé, il y a des réactions des auditeurs. Malheureusement, Didier Bitaki et Jean-Mouyan Penda n'auront pas l'occasion d'y répondre puisqu'on est avec vous. Il y a Mamboura de Butembo. Il invite le CNDP à cesser de distraire les Congolais car il n'y a pas encore la volonté de mettre fin à la guerre. Mais j'espère que Jean-Mouyan Penda a promis, il a fait une promesse, notamment pour les barrières, que c'est juste une question de temps, les barrières selon levées. Maître Juvenal Mounoumbo Moubi de Goma pense que les leaders des ex-groupes armés devront désormais œuvrer pour la pacification du Nord et du Sud Kivu. Monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala, vous pensez que vous qui discutez encore avec ces groupes armés, est-ce qu'il y a vraiment cette ferme volonté d'œuvrer pour la pacification du Nord et du Sud Kivu?
Je ne peux pas me porter garant de ce que sera quelqu'un d'autre, hein, parce que nous sommes des hommes libres, hein, quelqu'un qui accepte et qui signe.
Mais est-ce que vous sentez cette volonté armée?
Je la sens chez beaucoup. Il y en a d'autres qui, bon, vous avez entendu parler Didier Bitaki, si vous posez la question, peut-être aux autres, ils vous diront exactement le contraire de ce qu'il a dit, hein, parce que j'ai vu que tout le monde était satisfait, et quand il dit qu'on s'est rencontré seulement pendant deux jours, vous comprenez que quelqu'un de sérieux ne peut pas le croire. Donc vous saisissez qu'il y a à boire et à manger dans ce que les gens racontent.
Oui.
Mais fondamentalement, oui, la volonté est là. Il faut qu'on arrête avec cette culture de prise d'armes pour accéder, par exemple, au pouvoir ou à quoi que ce soit. Il faut que cela ne soit qu'une exception et maintenant nous devons entrer dans une autre culture.
Merci.
La culture de la paix,
oui,
la culture où l'État fait ses fonctions régaliennes
pour
sécuriser sa population.
Merci beaucoup, Jean.
Donc on n'aura plus besoin de vos armées.
Voilà, merci. Voilà. C'est par ces mots que nous bouclons le premier sujet, hein, de ce dialogue entre vous. Restez avec nous puisque nous abordons tout de suite le second thème. Fait hier mercredi à Kinshasa du premier symposium de la société civile. Que retenir de ce symposium? La société civile congolaise joue-t-elle son rôle? C'est de cela que nous allons débattre tout de suite avec justement l'abbé Jean Bosco Bahala qui est toujours avec nous dans ce studio et Chantal Kanimbo Magnon qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Chantal. Bonsoir Madame Chantal.
Bonsoir.
Voilà, il est en ligne. Et puis, pense-t-il, Mbwangi, je crois qu'on est en train, je vois, Kelly, écoutez, Dimaté qui s'affaire. On va vous retrouver juste le temps de vous rappeler, nos contacts. Voilà, c'est pour vos réactions.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Alors, le symposium de la société civile s'est clôturé hier, mercredi à Kinshasa. Madame Chantal Kanimbo, vous avez fait partie du comité préparatoire de ce symposium. Vous en êtes d'ailleurs la présidente. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Madame Chantal Kanimbo.
Allô, s'il vous plaît.
Vous
je n'ai pas bien suivi.
Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir justement du symposium? En un mot d'abord, est-ce qu'il s'est bien déroulé ce symposium?
Bon, je pense que d'une manière générale, ça s'est bien déroulé, même si dans toute organisation, on peut déplorer quelques petits accros, mais je pense que d'une manière générale, tous les participants ont été satisfaits du déroulement du symposium.
Satisfait du déroulement du symposium, mais est-ce que vous êtes aussi satisfait, Pamphile Mbwangi, parce que la réalisation des signes, vous êtes en ligne. Bonsoir. Ouais, satisfait du déroulement du symposium de la société civile? Vous êtes satisfait de la manière dont s'est déroulé le symposium de la société civile?
Et
Oui, je vais juste vous demander, Pamphile, de vous éloigner de votre poste récepteur, de votre radio. Pendant que vous vous éloignez justement, nous revenons vers vous, Madame Chantal Kanimbo. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de ce symposium comme résultat?
Bah, écoutez, les résultats, les trois objectifs assignés à ce symposium ont été atteints, notamment la mise en place d'un cadre des concertations entre les organisations de la société civile entre elles, la mise en place d'un cadre de dialogue sur les politiques nationales de développement avec l'État congolais et les partenaires au développement et l'évaluation de l'aide publique au développement. Je pense que tous les participants à ce symposium ont apporté leur contribution sur les trois objectifs assignés à ce symposium. Il y a un cadre de concertation a été mis en place. Ce cadre est considéré comme un espace d'échange, de discussion, de réflexion profonde entre les organisations de la société civile sur les grandes questions d'intérêt national, de manière à ce que les organisations de la société civile, évoluant chacune dans sa sphère d'activité, dans sa thématique, puissent apporter leur contribution pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Et cette réflexion permettra justement aux organisations de la société civile d'avoir un partenariat avec l'État congolais. Il a été proposé au cours de ce symposium un protocole, je ne sais pas comment on l'appellera, peut-être ça sera une convention ou un contrat de partenariat avec l'État congolais, de manière à ce qu'on puisse formaliser ces discussions, ces dialogues que les organisations de la société civile veulent avoir avec les gouvernements qui gèrent l'État, qui gèrent les intérêts de tout le monde, pour pouvoir discuter ensemble des politiques nationales sur le développement, parce que les organisations de la société civile sont des organisations qui se sont engagées dans une action citoyenne pour contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais. Mmh. Et donc, nous estimons que c'est important que la voix de ces organisations qui connaissent les besoins des citoyens, parce que vivant avec eux, les besoins de base, puissent les exprimer dans un dialogue avec l'État congolais afin qu'on puisse élaborer un programme qui prenne en compte les besoins, les priorités exprimées par les populations.
Donc, un partenariat établi entre les organisations de la société civile et l'État congolais. Qu'est-ce que vous en pensez, M. l'abbé Jean-Bosco? Voilà. C'est parti aussi de la société civile, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Et je salue justement l'organisation de ce symposium. Et en passant un petit clin d'œil à Maman Chantal, nous sommes de la même corporation, les journalistes. Oui. Et je voudrais donc dire que je n'ai pas passé personnellement au symposium parce que justement le calendrier a coïncidé avec la clôture de notre
avec
le groupe armé. Et donc, mais nous avons quand même suivi de près parce qu'il y a des membres de par exemple de notre société civile de Sud Kivu qui étaient là-bas et qui m'ont donc briefé chaque jour sur ce qui se passait. Je crois que l'important...
Est-ce que ça valait la peine d'organiser ce symposium?
Mais depuis longtemps, il fallait le faire. Depuis que nous avons été associés, si je puis dire, à la à la panne de la résolution des conflits dans notre pays, par exemple, en allant à San City et en participant aux institutions, comme au Parlement et même au gouvernement en tant que société civile. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de remous et beaucoup de choses qui ont été dites sur la société civile congolaise. Le concept même de société civile, les gens se sont toujours dit, c'est une sorte de contre-pouvoir. Dans d'autres pays, la société civile participe de façon active aux activités du gouvernement. Je parle par exemple des États-Unis où vous voyez une ONG, une organisation gouvernementale financée par l'USAID, n'est-ce pas? Ici, chez nous, les gens trouvent un peu étonnant que des gens appartenant à la société civile aient par exemple quelque chose à faire avec le gouvernement. Des choses comme celle-là créaient une sorte de malentendu sur le rôle de la société civile. C'est vrai qu'elle doit jouer un rôle, j'allais dire, d'éveilleur de conscience, n'est-ce pas? Mais la société civile n'est pas une forme d'opposition, n'est-ce pas? Et ça, il fallait lever cet équivoque. Il faut créer un cadre de concertation où, justement, l'aide publique qui devrait aller, qui devrait améliorer la vie des populations, pourrait passer par ces organisations non gouvernementales qui ne devraient pas se professionnaliser ou se singulariser, mais qui devraient canaliser, justement, vers la base ce que le gouvernement ne peut pas faire de façon directe. Et je crois que ce cadre qui a été créé est bon. Mais il faut aussi aujourd'hui qu'une bonne réflexion continue sur le rôle réel de la société civile au sein d'une, d'une République démocratique du Congo en plein changement démocratique.
Voilà, on va y revenir, mais d'abord, on pense à Mboigny, j'espère que votre ligne s'est améliorée. Vous êtes d'accord avec M. l'abbé Jean Bosco Bahala que ce symposium était de grande importance? Population, évidemment, on ne l'entend pas de cette oreille. Il y a Maître Jules Mouteba de Kinshasa, lui pense que la société civile du Congo porte les couleurs des partis politiques. C'est pourquoi il y a plusieurs courants à son sein, au point qu'elle est très loin de la population dont elle est censée pourtant défendre les intérêts et se caractérise par des querelles récurrentes pour le pouvoir. Selon lui, il n'y a pas de société civile à proprement parler en RDC. Madame Chantal Kanimo, qu'est-ce que vous répondez à cet éditeur?
Bon, écoutez, c'est peut-être vrai de penser ainsi, parce que depuis le dialogue intercongolais de San City, effectivement, il y a eu des positionnements politiques pour occuper des postes politiques, et effectivement, ça a donné un débat sur le rôle même des organisations de la société civile. Je pense que si, à l'initiative des confessions religieuses, on a pensé qu'il était indispensable de pouvoir réunir toutes les organisations de la société civile afin de mener une réflexion profonde sur le rôle et lever les options fondamentales qui devraient déterminer le rôle que les organisations de la société civile peuvent jouer dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et donc, on a réussi à organiser ce symposium. Tout le monde s'est mis d'accord qu'effectivement, les organisations de la société civile devraient s'inscrire dans une démarche où il y a des actions qui devraient aboutir à des résultats concrets. Et quand on aura fait l'évaluation, on constatera qu'effectivement, les organisations de la société civile, par leur action, ont arrivé à améliorer les conditions de vie des citoyens et qu'il n'est plus question de positionnement ou d'utiliser les structures institutionnellement, je pense. Si l'opinion pense que la société civile joue un rôle plutôt chargé, c'est plutôt la conquête du pouvoir, c'est parce que toutes les structures qui ont été mises en place ont été peut-être récupérées d'une manière ou d'une autre par quelques leaders qui ont cherché à se positionner, mais je pense que le diagnostic a été fait par les organisations de la société civile qui ont estimé indispensable justement d'organiser cette rencontre pour faire le point, faire l'évaluation et lever les options fondamentales qui détermineront les actions des organisations de la société civile. Non pas prise en bloc société civile, mais chacune des organisations dans sa thématique elles évoluent, qui pourront proposer des programmes pour améliorer des conditions. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, on en a parlé même hier dans les discussions au cours de ce symposium. Comment organiser ces cadres de concertation? Ça devrait être un cadre qui partirait du niveau local et qui monterait à tous les niveaux où toutes les organisations gouvernementales de la société civile se retrouveront pour des questions. Par exemple, dans notre pays, il n'existe aucune législation pour protéger la personne vivant avec handicap. Les bâtiments publics sont construits sans tenir compte que les personnes avec handicap ont des difficultés à circuler et ne prévoient aucune disposition pour que dans les transports en commun, on facilite la circulation des personnes vivant avec handicap. Et donc, dans ce cadre de concertation, les organisations non gouvernementales qui s'occupent qui évoluent dans le secteur des droits de l'homme pourront réfléchir et proposer un projet de loi et faire en sorte de faire aboutir ce projet de manière à ce qu'on puisse voter une loi. C'est comme ça que devraient fonctionner les organisations de la société civile sur des points précis, sur des questions précises d'intérêt national avec une démarche inscrite avec des actions bien précises à mener et au bout d'un moment on fait des résultats et on obtient des résultats et je pense qu'ainsi la société, les organisations de la société civile construiront leur crédibilité et pourront effectivement être acceptées dans l'opinion comme ces organisations qui mènent une action citoyenne qui sont dans une démarche de participation citoyenne dans la gestion de la cité pour défendre les intérêts effectivement de la population. Oui. C'est ça la société civile. C'est un engagement citoyen en collaboration avec l'État congolais. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit l'abbé Barala. Effectivement, dans notre pays, on pense que les organisations de la société civile seront fortes si elles affaiblissent l'État. Moi, je pense que c'est aberrant de s'imaginer qu'on peut être plus fort que l'État. C'est l'État qui organise toute la vie de la communauté. Et donc, plus fort sera l'État congolais, plus capable sera l'État congolais. Les organisations de la société civile auront également la possibilité de participer pour améliorer les conditions de vie. Et à parler des organisations aux États-Unis qui bénéficient du soutien financier même de l'État, parce qu'on estime que l'action que menée par telle ou telle autre organisation dans tel ou tel secteur participe à l'amélioration des conditions de vie ici. Dans notre pays, moi j'ai entendu dire on est récupéré par le gouvernement parce que le ministère du plan a accompagné ce processus, alors que le ministère du plan a facilité justement aux organisations qui s'étaient réunies dans le comité préparatoire pour obtenir des bailleurs de fonds, des financements de ces symposiums. Donc, c'est aberrant, on ne peut pas continuer à rendre incapable notre État et penser que on peut améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais c'est l'État qui a tous les pouvoirs régaliens pour pouvoir délivrer les services publics dans le sens d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, ce partenariat que nous voulons instaurer avec le gouvernement, il est absolument nécessaire et contribuera effectivement à capaciter davantage l'État congolais et à l'aider à améliorer ses services pour le bien-être des Congolais.
Oui, Santa Kalimbo, bon, puisqu'il y a Tanfil Mbwangi, on signale qu'il est maintenant en ligne, j'espère maintenant que la ligne s'est améliorée. Vous êtes président des ONG de droits de l'homme du Bas-Congo, Tanfil Mbwangi. Mais est-ce que, qu'est-ce apporte en fait ce partenariat par rapport à d'autres réseaux des ONG? Là, je parle par exemple du CNONG, la Confédération des ONG. Est-ce que ce cadre que vous venez de créer, ce cadre que vous venez de créer à travers ce symposium, ce n'est pas un cadre de trop
On n'a pas créé de nouveau cadre. Ce n'est pas qu'il est mis en question des organisations telles qu'elles existent déjà. Une nouvelle vision, une vision inclusive, une vision, c'est une même démarche conceptée par toutes les organisations de la société civile, de sorte que les efforts ne soient pas dispersés. Les langues existent comme des langues, les professions religieuses existent aussi comme la profession religieuse, mais on voudrait qu'il y ait des cadres qui permettent justement qu'on échange. Par rapport à l'aide reçue à l'intention des populations, qu'on échange par rapport aux actions menées par les gouvernements, c'est d'ailleurs c'est ça que la présidente appelle politique, qu'on échange par rapport aussi aux délibérations de la population. Donc, ça n'est pas tout à fait la question. Je veux juste réaliser que la société civile en France là a encore joué le rôle de l'opposition politique. Et tout le monde devra comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des décisions ici des élections, et que la société civile peut se démarquer de ce rôle-là qui l'a mené justement à s'opposer à l'État au pouvoir en place. C'était dans les années 90. Maintenant, là, que la société civile soit un partenaire attitré, comme il dirait, c'est un peu consultatif. C'est l'État des frères, auquel l'État des frères recourir pour avoir la, la température, l'expression des soins des populations. Voilà donc ce que je peux dire, ce n'est pas une raison en plus, mais c'est plutôt la réunification. Je dois dire, surtout de tous les efforts, de toutes les forces qui sont civiles et congolaises, afin que les résultats soient beaucoup plus remarquables, afin que les objectifs que nos organisations sociales soient atteints et de manière à bénéficier réellement aux populations qui nous ressources transférables.
Oui, je rappelle juste aux auditeurs que nous parlons de la fin. Hier mercredi à Kinshasa, du premier symposium de la société civile. Que retenir de ce symposium? Vous avez suivi, Madame Chantal Kanimbo, présidente du comité préparatoire de ce symposium, mais Pansil Mbwangi, président des ONG de droits de l'homme du Bas-Congo, les deux donc ont pris part à ce symposium, mais Jean Bosco Bahala est aussi avec nous, le rapporteur général du comité national de suivi des accords de paix, M. l'abbé Jean Bosco Bahala. Mais il y a cette question de la crainte, de la manipulation, elle est aussi évoquée par un acteur de la société civile et analyste politique, Modeste Mbonigaba. Lui n'a pas pris part à ces assises. Il salue d'abord l'organisation de ce symposium. Il déplore cependant la politisation de la société civile congolaise et pense qu'elle doit, pour l'avenir, jouer un rôle d'avant-garde en éclairant la société en crise. On écoute Modeste Mbonigaba au téléphone de Alain Rong.
Faire en sorte que les acteurs de la société civile éparpillés à travers la République se rencontrent ne peut être qu'une bonne chose. Parce que souvent, ils aimeraient bien se rencontrer, mais ils n'ont pas toujours les moyens de le faire. Parce qu'il faut payer les billets d'avion, les séjours, etc. Par rapport aux faiblesses que nous avons constatées, en fait, depuis la conférence nationale, au début de la conférence nationale, nous avions une société civile très forte. Mais par la suite, elle a été fragilisée, noyautée, sommée parfois de s'aligner, ce qui fait qu'aujourd'hui, la société civile est arrivée là où elle est aujourd'hui, après avoir connu toutes ces difficultés-là. Il faut donc que pour l'avenir, la société civile se ressaisisse. La société civile peut jouer effectivement un rôle pour éclairer le reste de la société lorsque celle-ci est en crise aiguë, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, il y a, pour Modeste Mbonigaba, il doit justement éviter d'être politisé, mais nous avons suivi aussi Pamphile Mbwangi, la société civile doit cesser de jouer le rôle de l'opposition. Monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala, vous l'avez dit aussi, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que finalement, ce symposium, peut-être Chantal Kanimbo va le dire, c'est quoi? À ramener finalement les organisations de la société civile dans le camp de l'AMP, par exemple?
Non, justement pas. Ce serait malheureux d'ailleurs. Je crois qu'il faut revenir vraiment rapidement aux origines. J'ai pratiquement vu naître le concept société civile et la toute première société civile qui est organisée. Je ne le dis pas par fierté personnelle. C'était au Sud Kivu que ça a commencé. Un des acteurs clés de cette société civile, c'était le ministre actuel des infrastructures, Pierre Lumbi. Et c'était chez nous, donc à Bukavu, qu'est né les premières activités de la société civile. Mais je dit que notre société civile a évolué, n'est-ce pas? Elle est passée justement par ce que j'appelle la maturation de l'histoire. Mais elle a porté également ce qu'on appelle le péché des origines. C'est qu'en ce moment-là, il s'agissait de se battre contre un système. Il s'agissait de suppléer à l'État qui était devenu absent, où les ONG naissaient parce que justement l'État n'existait plus. Je connais des endroits où il n'y a plus que l'Église qui constitue une structure. Si l'Église jouit aujourd'hui, l'Église et les Églises, je parle de l'Église en général, n'est-ce pas? Si l'Église jouit aujourd'hui d'un certain respect de la part de nos populations, c'est qu'à un moment donné, il y a eu pratiquement abandon des fonctions régaliennes de l'État. Et ce rôle a été joué par les ONG, par les Églises. Et donc, petit à petit, puisque notre État est en refondation, il faut que l'on puisse revenir à la vraie notion, au vrai concept de la société civile. En ce moment-là, au moment de la conférence nationale souveraine, la société civile a joué pratiquement un rôle de contrepoids au pouvoir qui était là en place. Au moment où nous entrons maintenant en pleine démocratie, nous devons accompagner cette jeune démocratie qui naît, nous devons l'accompagner parce que la société civile, je vous le garantis, elle a des compétences extraordinaires. Et il n'est pas exclu que, par exemple, ceux qui gouvernent recourent à ces compétences qui sont là. Regardez, lorsque vous prenez quelqu'un qui a géré une organisation non gouvernementale, il connaît toutes les notions de programmation, il connaît les notions d'évaluation des projets, il sait comment on gère les hommes, comment on parle aux populations locales. Il a pu faire, peut-être parfois, je ne parle pas, on critique aussi certaines de ces ONG bourgeoises.
Viennent pour s'enrichir. Considérer les associations, justement, de la société civile comme un tremplin pour accéder au pouvoir.
Non, mauvais. Ça, c'est mauvais.
Mais on a vu beaucoup de leaders, quand même, de la société civile qui pensent tous en pouvoir.
Non, pas presque tous. Je ne crois pas. Je crois que ce passage-là s'est fait au moment de la transition. Mmh. Et beaucoup d'entre eux, je suis heureux de savoir que beaucoup d'entre eux ont choisi, par exemple. Il y en a qui ont été poussés devant le choix d'entrer dans un parti politique. Ce qui est bien.
Mais il y en a aussi qui entrent dans les partis politiques, mais qui restent toujours avec la casquette société. Comment expliquer ça, cette confusion?
C'est un choix personnel, mais normalement, le concept devrait être clarifié à ce niveau-là-bas. Et lorsque, par exemple, vous occupez des fonctions, j'allais dire des fonctions officielles, des fonctions d'État. Normalement, vous ne parlez plus au nom de la société civile. Sauf si vous abandonnez ces fonctions et que vous n'avez pas pris un engagement politique quelconque. Oui. Lorsque vous voyez quelqu'un présider et être là à la CEI au nom de la société civile, il y est comme société civile. Oui. Si demain, on lui donne une autre fonction et qu'il prend un engagement politique, il doit cesser. Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la réflexion doit se faire comment notre société civile peut jouer un rôle majeur dans l'accompagnement de la démocratie et de la démocratisation et aussi de la bonne gouvernance dans notre pays. Et cela est important, je crois. Hein, il faut que nous apportions notre savoir-faire et notre compétence auprès de notre État. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à critiquer ce que fait le gouvernement sans l'aider à pouvoir changer. Oui. Je crois que c'est cela l'essentiel.
Oui, bon, il y a Augustin Mwango de Kindu nous écrit, il croit qu'en gros, la société civile congolaise est manipulée par les tenants du pouvoir. Il salue les efforts de celles du Nord et Sud-Kivu qui ne cessent de dénoncer jour et nuit les méfaits du pouvoir. Maître Juvenal Manubo Mubi de Goma revient encore et il pense que la refondation de la société civile voudrait que ses acteurs soient réellement apolitiques, qui se spécialisent en réseaux thématiques, aident la population à connaître ses droits et ses devoirs. Madame Chantal Kalimbo, est-ce que vous pensez que avec ce symposium, là, vous voulez donner à la société civile congolaise le rôle qu'elle ne jouait pas avant?
Écoutez, la réflexion a été menée sur tout ce qui a été dit, la politisation de la société civile, la récupération, la manipulation. La réflexion a été menée et il est sorti de ce symposium justement une charte de la société civile et un code de bonnes pratiques de la société civile où il est dit clairement que quiconque prendrait des fonctions politiques devrait démissionner de son organisation et ne plus rien avoir à faire avec la société civile. Effectivement, cette collusion là qu'on a connue après la conférence nationale souveraine, des acteurs, des leaders de la société civile avec la politique, a effectivement beaucoup nui au rôle de la société civile, au rôle de contre-pouvoir de la société civile, au point que les organisations de la société civile ont perdu leur crédibilité.
Oui.
La réflexion a été menée et les participants à ce symposium, je voudrais quand même le rappeler, le processus a connu plusieurs étapes, avec d'abord un atelier de mise à niveau qui a concerné les 44 membres du comité préparatoire, mais ensuite il y a eu les consultations provinciales où il y a eu 400 délégués qui ont pris part à ces consultations provinciales, les délégués sont venus, 161 territoires du pays. Et au cours de ces consultations provinciales, ces délégués ont désigné à leur tour, ont voté à leur tour les six délégués par province de revenir à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Que les organisations de la société civile sont conscientes de tous ces débats autour du rôle de la société civile et ont pris l'engagement avec la charte qui a été adoptée d'avoir de bonnes pratiques, d'avoir une démarche de nulle part à l'action menée par les organisations de la société civile dans cette collision qu'on dénonce régulièrement avec les politiques.
Oui, mais Chantal Canimo, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, c'est juste quelques secondes. En un mot, vous pouvez dire, parce que vous avez cité l'implication quand même du gouvernement à travers le ministère du Plan, est-ce que vous rassurez que le cadre que vous créez n'est pas noyauté par le gouvernement?
Mais non, pas du tout. Pourquoi? D'abord, pourquoi vous pensez que ça doit être noyauté? Nous, nous voulons un partenariat avec le gouvernement, justement, parce qu'on voudrait jouer ce rôle, apporter la contribution à Dubaï, à parler des compétences qui existent, pour pouvoir aider le gouvernement à améliorer les conditions de vie. Et donc, il ne faut pas toujours mettre cette relation des organisations de la société civile avec l'État en opposition.
C'est son partenariat.
Ça doit être un partenariat.
Voilà,
nous, nous jouons notre rôle, effectivement, le rôle citoyen, de contre-pouvoir, des veilleurs aux intérêts de la communauté.
C'est vous qui terminez l'émission, justement, Chantal Canimbo. On n'a pas permis à d'autres, c'est l'abbé Jean Bosco Bala d'intervenir, Pamphile Mbouangui. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Nini Kindou était à la mise en ombre, réalisation de Kéline Couté, Guy Maxé, Samuel Kachak, Alain Héron. Merci à tous de nous avoir suivis. Okapi, okapi.